Bonjour à tous, bonjour à ceux qui n'ont pas rencontré au début du culte. Je suis content d'être à cette place, toujours un peu ému d'ailleurs. Et donc je vous propose de lire ensemble quelques versets dans la Bible et de commenter certains. Alors, je n'indique pas le titre de la prédication, j'espère qu'il va se révéler progressivement. Par contre, j'annonce qu'il y aura trois parties dans la prédication et je vous propose de lire un premier texte. Voilà, qui vient de s'afficher, enfin, dont la référence plutôt vient de s'afficher, dans la première lettre de Jean et qui sera notre texte d'appui pour la première partie. Donc, première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 11. Mes chers amis, c'est pas moi qui parle, hein, c'est écrit là dans ma traduction. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est un enfant de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voilà en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre le mal par son sacrifice pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Alors, nous abordons franchement la première partie donc, de la prédication, de l'amour divin à l'amour fraternel. Normalement, c'est ce que vous devez pouvoir lire. Hein, avec un peu de peine. Et donc, nous ne pouvons pas parler de l'amour entre les disciples si nous n'établissons pas avec certitude, tout d'abord, que Dieu est amour. Alors, cette vérité, j'en conviens, est assez connue, mais il est tout de même important de s'y arrêter quelques minutes. Et je vous propose de le faire en considérant le texte qui vient d'être lu dans la première lettre de Jean. Alors, ce passage que vous venez d'entendre ou de lire nous dévoile plusieurs vérités. La première, c'est qu'il renferme l'exhortation adressée aux enfants de Dieu de s'aimer. Au verset 7, « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres ». Et au verset 11, en sautant quelques mots qui sont entre virgules, « Mes chers amis, nous devons nous aimer les uns les autres. » Pas d'exhortation plus directe. Alors, ce texte explique ensuite que cet amour, les uns pour les autres, cet amour mutuel, trouve son origine dans l'amour de Dieu pour nous, ses rachetés. Au verset 7, « Aimons-nous les uns les autres ?» Car l'amour vient de Dieu. Au verset 10, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et au verset 11, mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Notre Dieu est un Dieu d'amour et c'est parce qu'il est un Dieu d'amour qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres. Ensuite, encore, ce texte explique comment s'est manifesté l'amour de Dieu. Je ne vous apprends rien, mais il est bon de nous le rappeler. L'amour de Dieu, pour ceux qui allaient devenir ses rachetés, s'est principalement manifesté, on l'a dit dans cette première partie du culte, par l'envoi d'un grand sauveur, Jésus-Christ le juste. Au verset 9, il est écrit « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde » pour que par lui, nous ayons la vie. Au verset 10, Mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre le mal par son sacrifice pour le péché. En entendant ces versets, d'ailleurs, je passe rapidement, la plupart d'entre vous ont pensé à ce verset donc, de Jean 3,16 qui nous explique que Dieu, dans son amour, a envoyé vers les hommes un grand sauveur. Enfin, en revenant au passage lu dans la première lettre de Jean, on peut trouver au verset 7 et 8 ce que je vais appeler provisoirement, le mot est, ne nous y attardons pas, c'est pour fixer un peu les idées, la marque de fabrique du disciple de Christ. Il est dit, celui qui aime est un enfant de Dieu et il connaît Dieu. Verset 7. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Retenons et résumons. Celui qui aime Dieu connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Alors on retrouvera ce que j'appelle provisoirement, faute d'un autre mot, la marque de fabrique du disciple, un peu plus loin dans la prédication. Alors pour terminer, j'ouvre cette première partie, j'ouvre une première parenthèse, une courte parenthèse. Le sujet à traiter aujourd'hui, vous le comprenez, cela se dessine, c'est le thème de l'amour. Et c'est pour cette raison que le point de départ de la prédication a été par choix de parler de l'amour de Dieu. La parenthèse que je fais maintenant consiste à dire que si l'amour est bien un attribut divin, ce serait se tromper lourdement que d'affirmer que la personne de Dieu est entièrement décrite par son amour. Dieu a bien d'autres attributs, son éternité, sa toute-puissance, sa sainteté, sa justice, etc. Mais aujourd'hui, je le précise en terminant cette parenthèse, nous ne parlons que de l'amour de Dieu et pas de ses autres attributs. Alors, à la fin de cette première partie, je propose un début de titre pour la prédication. Je propose un Dieu d'amour et des disciples aimants, de l'amour divin à l'amour fraternel. Nous compléterons ce titre un peu plus loin, mais je propose maintenant d'aborder la deuxième partie de la prédication, au cours de laquelle nous allons justement nous arrêter sur quelques instants sur l'amour dont il est question dans ce début de titre. Et là, je vous propose une deuxième partie avec une deuxième lecture, la prééminence, c'est-à-dire la supériorité absolue de l'amour. Et cette partie s'appuiera sur un passage, vous m'excuserez, qui est bien connu, mais qui fait partie de notre culture chrétienne, le 13e chapitre de 1 Corinthiens. Alors, nous n'allons pas le lire en entier, nous allons le lire un peu par morceaux. Je vais citer avant le commentateur George Campbell Morgan. C'était un évangéliste, un prédicateur, un érudit biblique. Il était du siècle dernier, il est mort en 1945. Il a commis 80 livres sur des sujets bibliques, c'était donc un écrivain biblique prolifique. Et il a écrit dans son commentaire de la première lettre aux Corinthiens, « J'ai lu et relu longuement ce chapitre, le chapitre 13, qu'on va lire par morceaux. J'en ai admiré la beauté, je me suis émerveillé de son art, et pourtant j'ai éprouvé quelque hésitation à en disséquer les versets, écrit-il. » Alors, pour expliquer ses réticences à analyser ce texte, il évoque ses souvenirs de botaniste amateur et il explique qu'analyser un tel texte, c'est comme disséquer une magnifique fleur. Hein, toutefois, quand elle est disséquée, la fleur ne peut pas être reconstituée, elle meurt. Seulement, Campbell Morgan ajoute que si nous nous penchons sur ce texte, contrairement à la fleur, il n'en subira aucun dommage. Alors nous allons nous pencher à notre tour sur ce texte avec encore plus de modestie et de respect que Campbell Morgan ne l'a fait. L'amour, une vertu indispensable. Je dis vertu pour aller vite. Hein. Nous savons que l'amour est cité en premier dans la liste de ce que Galates 5:22 appelle le fruit de l'esprit. Alors, on va parler de vertu. Cette vertu est indispensable. Lisons maintenant les trois premiers versets du chapitre en question. 1 Corinthiens 13, les trois premiers versets. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de transmettre des messages inspirés, que je comprenne tous les mystères, que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai, dans toute sa plénitude, la foi pour transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Alors, ce court passage-là est construit autour de trois versets qui se terminent tous les trois par un refrain, une sorte de ritournelle qui, à chaque fois, exprime que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors, chaque fois, il est clairement dit que tous les dons qu'on pourrait imaginer ne sont rien s'ils ne sont accompagnés d'amour. Même si on maîtrise les langues des hommes, même si on parle les langues des anges, si l'on n'a pas l'amour, on n'est presque rien, dit ma traduction. On n'est rien de plus. Non, ce n'est pas ma traduction qui le dit, mais elle dit qu'on n'est rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante, c'est-à-dire qu'on n'est presque rien. Alors, avant d'aller plus loin, deuxième parenthèse, contrairement à ce que je viens de dire, le verset ne parle pas d'un « on » impersonnel, mais il parle de « moi ». Le terme employant le pronom personnel « je ». Chaque lecteur, chaque auditeur doit prendre ces trois versets pour lui et donc se poser la question « ai-je l'amour en moi ?» Et si on continue dans le texte, même si je prophétise, même si je comprends tous les mystères, même si je possède toute la connaissance, même si j'ai une foi à transporter les montagnes, ah, j'imagine que tous, probablement comme moi, nous aimerions avoir une foi à transporter les montagnes. Ben même dans ce cas-là, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si je sacrifie mes biens et même ma vie, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et donc, parce qu'il est supérieur à bien des dons, le parler en langue, la prophétie, la foi même, etc., l'amour est une vertu indispensable. Mais comme on va le voir, l'amour est encore plus. L'amour est une vertu qui survivra, d'après ce texte, à tous les autres.